Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et bon début de journée à l'écoute de VOA Afrique en direct du Studio 13 ici à Washington. Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Intense tractation diplomatique autour de Dominique Ongwen. Ce haut responsable de la LRA s'est rendu aux autorités spéciales américaines présentes en Afrique centrale.
Le Tchad propose un soutien actif au Cameroun pour lutter contre le groupe Boko Haram.
Un jeune Américain de 20 ans arrêté par le FBI, il projetait selon les autorités d'attaquer le Capitole ici à Washington.
La Minute Éco dans moins de 10 minutes, suivi des sports avec Nicolas Pino. Mais avant, le journal.
Intense tractation diplomatique autour de Dominique Ongwen, ce haut responsable de la LRA s'est rendu aux forces spéciales américaines présentes dans la région. Il pourrait être transféré à la CPI cette semaine, Henri Francisque.
Des représentants de la CPI ont rencontré hier à Bangui la présidente Catherine Samba-Panza pour discuter du cas Ongwen. Cette équipe de la CPI va se rendre dès aujourd'hui à Obo, cette ville préfecture centrafricaine aux confins de la RDC et du Soudan du Sud. C'est là que les forces spéciales américaines ont remis Dominique Ongwen à un commandant ougandais de la force de l'Union africaine chargé de traquer la LRA. Cette reddition hautement symbolique d'un chef de l'armée de la résistance du Seigneur a mis Bangui dans l'embarras. Yoweri Museveni, en froid avec la CPI, ne souhaitant pas le transférer depuis Kampala. Le président ougandais a appelé son homologue centrafricaine de la transition et les deux leaders ont convenu du transfert d'Ongwen à partir de la Centrafrique. Dominique Ongwen pourrait arriver rapidement à La Haye, peut-être même dès la fin de la semaine. La justice internationale l'accuse d'esclavage d'enfants, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Le comble de l'horreur au Nigeria, Amnesty International affirme ce matin que les combattants islamistes de Boko Haram ont tué une femme en train d'accoucher dans le nord-est du Nigeria. Dans un communiqué de presse, l'Organisation de défense des droits humains relate le récit d'un témoin de l'attaque de la ville de Baga sur les rives du lac Tchad. Cette personne, dont le nom n'a pas été révélé, affirme qu'une femme enceinte a été abattue en plein travail en même temps que plusieurs jeunes enfants. La moitié du bébé était sortie et elle est morte dans cette position, raconte ce témoin cité par Amnesty.
Pendant ce temps, l'armée nigériane dit avoir repoussé une attaque du groupe islamiste après 2 heures de combats intenses dans la ville de Biou, dans l'état de Borno. 5 terroristes ont été capturés, indique l'armée citée par l'AFP.
Et signe de l'inquiétude régionale croissante face à Boko Haram, le Tchad propose un soutien actif au Cameroun pour lutter contre le groupe nigérien. Et Nicolas Pino N'Djamena exhorte aussi la communauté internationale à agir.
Oui, dans un communiqué publié ce mercredi, le gouvernement tchadien exprime sa solidarité avec le Cameroun et explique être disposé à lui apporter un soutien actif dans la riposte courageuse et déterminée face aux actes criminels et terroristes de Boko Haram. Fin de citation. Ces déclarations interviennent après une rencontre à N'Djamena entre le président Idriss Déby et le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alame Bengo. Le Tchad et le Cameroun sont tous deux frontaliers de la partie nord-est du Nigeria que Boko Haram contrôle en partie. Les Tchadiens n'ont jamais été attaqués, mais rappellent que cette situation menace dangereusement la sécurité et la stabilité du Tchad, qui appelle tous les États de la CEAC à soutenir le gouvernement camerounais. Le gouvernement tchadien demande enfin à la communauté internationale des actions concrètes et conséquentes en faveur du Cameroun et de tous les États riverains du lac Tchad en vue d'éradiquer ce fléau que constitue Boko Haram.
L'Ivoirien Martial Gossio est libre de toute sanction européenne. L'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan ne constitue plus de risque pour la stabilité en Côte d'Ivoire, a décidé la justice européenne qui a gommé hier les sanctions de l'Union européenne contre cet ancien homme clé du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo. Jacques Aristide.
Dans son verdict, le tribunal de l'UE note que depuis son retour en Côte d'Ivoire début 2014, après un exil au Maroc, Martial Gossio n'a pas été arrêté alors qu'il était loisible aux autorités ivoiriennes de le faire. L'UE l'avait accusé d'être impliqué dans le détournement de fonds publics, dans le financement et l'armement des milices, homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices et personnages centrales dans le cadre du trafic illicite d'armes. Marcel Gossieux était ainsi interdit d'entrée ou de passage sur le territoire des États membres de l'Union, ses fonds étaient gelés et un mandat d'arrêt international le visait. Depuis 2011, au plus fort du conflit post-électoral qui a fait environ 3000 morts d'après l'ONU. En levant les sanctions, la justice européenne rappelle que l'ancien patron du port d'Abidjan a rencontré les autorités ivoiriennes et pris position publiquement à maintes reprises en faveur de la réconciliation nationale.
Signalons ces affrontements hier dans le département côtier de Lamu au Kenya. Un soldat et 5 Somaliens soupçonnés de lien avec les islamistes Shebab ont été tués. Tel est le bilan de l'armée cité par l'AFP.
Et bilan provisoire des inondations au Malawi, 48 morts. Le président Peter Mutharika a lancé un appel à l'aide humanitaire internationale face à cette tragédie nationale, selon un communiqué. Depuis le début des inondations, 13 999 ménages sont affectés et 69 995 sans-abri, a déclaré M. Mutharika. À Blantyre, la capitale économique du pays, plusieurs bidonvilles ont été balayés par les flots en furie et plusieurs personnes sont portées disparues, a constaté un reporter de l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont transféré 4 prisonniers incarcérés dans le centre de détention de Guantanamo à Cuba vers Oman et un 5e vers l'Estonie. C'est ce qu'a annoncé le Pentagone hier soir. Les 5 transferts ont été approuvés à l'unanimité après examen de plusieurs agences américaines, a précisé le Pentagone dans un communiqué, ajoutant que 122 prisonniers restaient incarcérés à Guantanamo.
Information de la justice américaine, un jeune Américain accusé d'avoir proclamé son soutien à l'organisation État islamique a été arrêté hier dans l'Ohio, dans le nord du pays, pour avoir projeté un attentat contre le Capitole, qui abrite le Congrès américain ici à Washington. Christopher Cornell, âgé de 20 ans, est accusé de tentative de meurtre contre des employés du gouvernement américain et de possession illégale d'armes à feu, selon un communiqué. Selon le procès-verbal de l'agent du FBI qui l'a arrêté, le suspect avait ouvert des comptes Twitter sous le nom de Raïl Marous Ubaida et poster des communiqués, vidéos et autres contenus en soutien au groupe État islamique.
Et en France, un Charlie Hebdo pourrait recueillir plus d'une dizaine de millions d'euros après l'attentat. Ce journal ne pouvait presque plus payer ses salariés, Morgan Guiriec.
5 millions d'exemplaires à 3 euros chacun, c'est déjà un jackpot. Le journal touchera la totalité des recettes pour le premier million d'exemplaires, soit 3 millions d'euros et 40% des recettes sur les 4 autres millions d'exemplaires, soit près de 5 millions d'euros. En quelques jours, son nombre d'abonnés est passé de 7 000 à plus de 120 000. Air France a payé plein tarif pour 20 000 exemplaires, alors que la compagnie bénéficiait généralement de prix réduits. Plus de 21 000 particuliers ont donné une rondelette cagnotte de plus de 1,4 million d'euros. Le ministère français de la Culture a promis une aide d'un million d'euros. Google, Amazon et eBay promettent de mettre la main à la poche. C'est donc une manne financière qui tombe pour Charlie Hebdo, qui se débattait dans d'énormes difficultés financières. Le journal ne vendait que 28 000 exemplaires par semaine en novembre. Il n'avait même plus de quoi payer ses employés et avait lancé un appel à l'aide pour survivre.
Quant au Sénégal, il a interdit la diffusion de cette édition de Charlie Hebdo et du quotidien français Libération, qui publie une caricature du prophète Mahomet en une. Félix Epassis Zembrou.
Il est interdit de distribuer et de diffuser par tous les moyens les éditions de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo et du quotidien français Libération sur toute l'étendue du territoire national, selon un communiqué du ministère sénégalais de l'Intérieur. Aucun journal sénégalais ni site d'information n'avait reproduit hier la une de Charlie Hebdo, journal non distribué en kiosque dans le pays, mais disponible dans certaines librairies. Le Sénégal, république laïque où la presse est libre et les censures de journaux rares, compte plus de 90% de musulmans. Plusieurs chefs religieux locaux ont dénoncé les caricatures du prophète par Charlie Hebdo. Le président Macky Sall, également président de l'Organisation de la coopération islamique, a participé à la marche républicaine organisée dimanche à Paris contre le terrorisme.
Le pape François se rend ce jeudi en Philippines, dans le seul pays à majorité catholique romaine de l'Asie. Il célébrera une messe en plein air avec une foule qui devrait se chiffrer en millions. La visite du souverain pontife aux Philippines est la première depuis le pape Jean-Paul II en 1995. François s'entretiendra également avec des survivants du typhon Haiyan qui a frappé le pays en 2013. Des échanges fructueux, c'est en ces termes que Washington a qualifié les discussions hier à Genève entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif. Les deux hommes ont discuté toute la journée de mercredi du programme nucléaire iranien. Cette rencontre a eu lieu juste avant la reprise des négociations internationales sur le nucléaire iranien. L'accord final doit intervenir au plus tard le 1er juillet. La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Avec nous ce matin, Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
L'économie ghanéenne a connu une croissance de 4,2 en 2014.
Ce chiffre est donné par le service des statistiques du Ghana. Le secteur industriel a enregistré la croissance la plus forte au cours du troisième trimestre avec un taux de 8,1% par rapport à celui de 2013. Il est suivi par l'agriculture avec un taux de 4,4%. Le secteur des services a pour sa part enregistré une croissance de 3,5%. Les autorités ghanéennes se félicitent de ces signaux au vert malgré de nombreuses agitations dans le monde du travail et la dévaluation du cedi, la monnaie locale.
On le sait, la guerre a un coût. Et celle au Soudan du Sud va coûter au pays et à la région des milliards de dollars.
Le rapport de Frontiers Economics, une firme européenne, estime que le conflit au Soudan du Sud pourrait coûter au pays jusqu'à 28 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. À long terme, c'est environ 158 milliards qui seront perdus pour la région.
Pour l'instant, le Sud-Soudan subit des pressions des deux côtés, dans la mesure où ses volumes de pétrole baissent en raison du conflit et les prix du pétrole tombent à de nouveaux planchers. Et en plus de cela, les dépenses militaires augmentent.
Amar Breckinridge, qui a prévenu que le Soudan du Sud va perdre cette année 70% de ses recettes budgétaires, fruit de la rente pétrolière.
Forum économique mondial de Davos la semaine prochaine, pour la première fois, plus de 2500 personnes attendues.
Il s'agit de représentants des mondes politiques, économiques, universitaires et de la société civile en provenance de plus de 140 pays. Le thème choisi cette année par le fondateur du forum, le professeur Klaus Schwab, est le nouveau contexte global.
Merci Jean-Roger. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Tout de suite, l'actualité sportive. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
Cannes 2015, les dernières infos avant le début de la compétition.
Le Ghana n'a pas disputé de match amical contre le SC Fribourg ce mercredi. La rencontre avait été annulée par le staff technique des Black Stars. Craignant qu'elle n'occasionne des blessures, l'encadrement ghanéen a préféré renoncer à Samoa Gyan et ses coéquipiers se sont envolés hier soir pour la Guinée équatoriale. Ils seront basés à Mongomo et ils affronteront dans le groupe C le Sénégal, l'Algérie et l'Afrique du Sud.
La Fennec perd un gardien.
Le deuxième gardien de l'équipe d'Algérie, Mohamed Zemamouche, est forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. La fédération algérienne a annoncé qu'il serait remplacé par Cédric Si Mohamed.
Info transfert, Wilfried Bony devient citizen.
C'est officiel depuis hier. Wilfried Bony, l'attaquant de Swansea City, a été transféré à Manchester City. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives cette saison en Première Ligue, Wilfried Bony quitte son ancien club pour un transfert d'environ 36 millions d'euros et un bail de 4 ans et demi.
La Coupe du monde de handball débute au Qatar.
Le pays organisateur affronte tout à l'heure le Brésil et demain, entrée en lice des 3 équipes africaines, les Tunisiens face à la Macédoine et surtout le choc continental entre l'Algérie et l'Égypte.
Le combat de l'année a été signé hier aux États-Unis.
Oui, le Philippin Manny Pacquiao a donné son accord pour affronter l'Américain Floyd Mayweather, champion WBA et WBC des Walter, pour l'un des combats les plus attendus de l'histoire de la boxe. Pacquiao a décroché un titre mondial dans 8 catégories différentes et affiche un palmarès de 57 victoires, 5 défaites et 2 nuls. Mayweather est toujours invaincu en 47 combats. Enfin, Bagassi, on reste aux États-Unis. Je vous laisse donner quelques résultats de la nuit en NBA.
Oui, Nicolas, Memphis a battu Brooklyn 103-92. Détroit n'a pas pu tenir le coup face au New Orleans Pelicans 105-94. Victoire de nos amis de Toronto sur Philadelphie 100-84. Washington a eu raison des Bulls de Chicago 105-99. Atlanta a dominé Boston 105-91. Et Miami a donc été battu par les Golden State Warriors 78-92. Los Angeles est tombé face à Portland 81-85.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, il est 5h45 en temps universel et vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique et de retour avec vous, Agassi Koura, pour Le Monde aujourd'hui. La mise en garde de l'ambassadeur américain au Gabon, Madame Cynthia Akwete, disant que Washington condamnera toute tentative de changement de gouvernement non constitutionnel, suscite encore des réactions. Hier, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le PDG, avait exprimé sa satisfaction, mais un leader de la société civile gabonaise souligne l'urgence d'un dialogue concret et crédible entre les partis. C'est selon lui le seul moyen d'éviter toute dérive anticonstitutionnelle et le chaos qui risque de produire l'ébullition sociale actuelle au Gabon. Écoutons Dieudonné Minlama Mintogo au micro de Chérubin Dorsil.
Pour le moment, il n'y a pas encore de réaction officielle au niveau des états-majors politiques. Mais en ce qui concerne l'Observatoire national de la démocratie, nous avions déjà, avant cette déclaration, proposé une solution de sortie de crise qui était plutôt une solution de dialogue et la mise en place d'un processus politique qui comprend aussi bien le dialogue, mais aussi la préparation d'un processus politique global. Les mauvaises transitions ont abouti à des catastrophes. Et nous avons proposé aux Gabonais de discuter, premièrement pour avoir un bon système électoral, pour que les élections 2016 soient des élections démocratiques et transparentes, mais qu'au-delà de ces élections, que nous réfléchissions ensemble comment régler tous les problèmes pour essayer de solder l'héritage Bongo, qui est quand même quelque chose de très lourd qui empêche le pays d'avancer.
Est-ce qu'il y a des velléités au sein de l'opposition, dans la classe politique en général, d'arriver à un changement de gouvernement par des moyens extra-constitutionnels?
Quand nous avons fait une proposition qui parle d'abord d'une bonne préparation des élections et qui parle aussi de comment gérer le Gabon après cette élection pour que le pays soit stable, c'est-à-dire nous avons prévu une transition, c'est parce que nous ressentions quand même au niveau politique qu'il y a des violences qui sont en train d'éclore à gauche et à droite. Et que les événements du 20 décembre dernier auraient pu dérailler et amener le Gabon dans le chaos. La situation est tendue, nous avons plutôt peur que nous tombons dans une situation de désordre à la limite même de guerre civile au Gabon.
Est-ce qu'on peut parler d'un processus électoral crédible au Gabon aujourd'hui?
Pour le moment, le processus n'est pas crédible, mais l'ouverture d'un dialogue doit nous amener à mettre en place un processus électoral crédible. L'enjeu du dialogue est aussi à ce niveau. Si nous dialoguons, nous allons regarder tout le processus électoral pour que, avec la communauté internationale, la supervision des Nations Unies, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine et des autres institutions comme la Francophonie, on puisse faire une bonne élection en 2016. Il y a des gens qui l'ont fait ailleurs. Il faut que des solutions proposées soient des solutions réalistes. Il ne faut pas que les gens négocient dans la peur ni avec la peur. Il faut qu'ils négocient sérénement.
Mais on ne négocie pas tout seul, Dieudonné Minlama. Quelle a été la réponse du pouvoir jusqu'à présent?
Bon, le pouvoir n'a pas fermé, hein. Je crois que le président a dit deux choses. La première chose, c'est qu'il a souvent dialogué. Il a sûrement fait quelque chose de vertu du dialogue. La deuxième chose, c'est que ne voulait pas dialoguer avec ceux qui ne le reconnaissent pas. Je crois que c'est à ce niveau. Nous avons des préalables à régler.
Voilà le président de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon, Dieudonné Minlama Mintogo, était joint à Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Direction le Bénin où le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI vient d'annoncer à la presse ce jour 14 janvier 2015 la liste électorale informatisée provisoire, une liste qui vient couper court à toute la polémique qui entourait sa correction entamée voici pratiquement deux ans. Avec Peggy Ludovic Dagba, voici les nouvelles données de la liste électorale au Bénin.
Lentement, mais sûrement, nous nous acheminons vers l'aboutissement du processus d'appurement, de correction, de mise à jour et d'actualisation du fichier électoral national et de l'établissement de la liste électorale permanente informatisée LEPI. Le COS LEPI annonce officiellement ce jour la disponibilité de la liste électorale informatisée provisoire LEIP.
Par cette déclaration, le président du Conseil d'orientation et de supervision de l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, LEPI, vient de délivrer tout un peuple. Car la liste tant attendue, tant redoutée est enquêté pour assainir les joutes électorales au Bénin est enfin là. Provisoire, elle présente les caractéristiques que voici. Sakala Fia, président du COSLEPI.
La liste électorale informatisée provisoire est l'ensemble des citoyens âgés de 18 ans et plus au 31 décembre 2014 répartis dans les 7914 centres de vote. Ils sont au nombre de 4 435 803 pour le moment, en attendant la mise en conformité de la liste avec la loi.
Cette liste électorale provisoire devra être encore toilettée après 21 jours d'affichage afin de recevoir d'éventuelles réclamations. 8 jours sont prévus pour le dédoublonnage avant que la version définitive au sens de la loi ne soit livrée le 23 février 2015, a annoncé le président du COSLEPI qui affirmera que cette opération coûtera encore 500 millions de francs CFA aux contribuables béninois. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Perspectives africaines et américaines sur les récents attentats terroristes. AGMI menace la France du pire, alors que le Cameroun fait part de son amertume devant le peu de réaction aux attaques de Boko Haram. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h TU.
La FAO avertit que le chômage est l'ennemi de la paix en République centrafricaine, où il est urgent de trouver de quoi employer les jeunes issus des groupes armés. À cette fin, elle cherche à montrer comment les cultures maraîchères peuvent offrir des débouchés. Le point avec Michel Joseph.
À 26 km au nord de Bangui, les Tam-Tams saluent les travailleurs de la FAO venus voir comment un ancien groupe de miliciens fait pousser des melons et autres produits agricoles. Jusqu'à récemment, Lévi Koulbé, un cultivateur, était à la tête d'un groupe d'anti-Balaka, une milice principalement chrétienne.
Je suis l'un des anti-Balaka, je suis venu de la brousse. Arrivé à Bangui, personne ne s'en occupait de nous, on souffre vraiment, il n'y avait plus rien. Et grâce à un parent, Korolui, c'est lui qui nous a interpellés, il nous a conseillé, il nous a donné des conseils. Pour qu'on puisse venir auprès de lui, il va nous apprendre à faire le maraîchage, etc.
Le maraîchage ne rapporte pas gros, constate Lévi Koulbé, mais les jeunes apprennent et l'espoir est qu'à terme, ils pourront gagner leur vie. On écoute Louis Corot qui les conseille.
Payer, c'est trop dit. On partage les miettes qu'on a. Il n'y a pas de salaire, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de salaire. En compensation, parfois du café, parfois de bananes plantains, parfois bon.
Le maraîchage peut être particulièrement rentable autour de Bangui, où un kilo de pastèque se vend plus de 2 dollars. Isaïs Koro faisait lui aussi partie de la milice anti-Balaka. Ces jours-ci, les barrages ne rapportent plus grand-chose, d'où l'intérêt présenté par le maraîchage, dit-il.
Maintenant, là, les voitures ne donnent plus. Et ce sont les gens qui passent avec les fagots, les femmes qui vont, les petits trucs-là, ils nous donnent peut-être 100 francs.
Autre avantage pour les ex-anti-Balaka à travailler pour le maraîcher Louis Koro, ils peuvent réintégrer la communauté en dépit des infractions, voire des crimes commis lors du conflit intercommunautaire. De son côté, la FAO espère bien appuyer le développement du maraîchage cette année en Centrafrique. Dans tous les villages, des sessions de formation seront organisées pour encourager les exploitants agricoles à coopérer et à apprendre ensemble, histoire notamment de réintégrer les anciens miliciens dans la société. Pierre Vautier, expert à la FAO, évoquait à Bangui les enjeux du projet.
Il ne faut pas oublier que c'est avec les jeunes qu'on va construire le futur. Et si vous voulez la paix en 2015, en 2016, en 2020, c'est avec les gens qui ont 15 ans, 20 ans ici, qu'il faut qu'on travaille aussi, il ne faut pas les oublier.
Ce sera aux jeunes de forger la paix, ajoute M. Vautier. La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Des médias et ONG ont lancé un nouveau site AfriLeaks, utilisant le logiciel européen GlobalLeaks, en vue de permettre aux gens de publier anonymement des informations sur la corruption et les violations des droits fondamentaux en Afrique. Et Nathalie Barge a joint à Florence en Italie Marco Calamari, il est membre d'Hermès qui soutient le développement de GlobalLeaks.
GlobalX est un logiciel qui est développé utilisant un autre logiciel bien connu qui est Tor, une nuage d'anonymisation. Ça veut dire qu'on peut communiquer sans révéler son identité et location. Nous avons créé un autre logiciel qui utilise Tor pour garantir qu'une personne qui veut dénoncer quelque chose peut le faire en complète anonymité. Et que qui veut recevoir la dénonciation peut le recevoir sans savoir la personne qui a fait la dénonciation.
Cependant, l'organisation AfriLeaks, qui donc utilise votre logiciel, eh ben, elle est principalement africaine et l'on sait que là-bas, Internet est très souvent contrôlé par les gouvernements. Est-ce que votre logiciel garantit ce non-contrôle des gouvernements? Et puis même les gouvernements coupent Internet en général.
Le problème, c'est que Internet c'est un puissant méthode de contrôle, mais il y a aussi un puissant méthode de communication. Donc, c'est très difficile sans couper tout, couper une particulière communication qui passe de la nuage de Tor et qui utilise GlobalX.
Qu'est-ce que vous savez d'AfriLeaks? Comment vont-ils travailler avec ce logiciel?
AfriLeaks fait plus ou moins les mêmes activités que les Hollandais de CoupableLeaks ont déjà fait. Le Centre Metz, il travaille avec la fondation Hivos et FreeFress Unlimited, ces organisations qui vont financer ces initiatives, aussi avec gens qui vont réaliser AfriLeaks. C'est une façon d'intermédiaire.
Voilà, c'était Marco Calamari, conseiller à Hermès en Italie. C'est l'heure de la musique avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Un nom respecté dans la rumba congolaise est celui de Ferré Gola. On l'écoute ce matin dans Béquille.
Ah, mes œuvres parlent à ma place. Yiboko n'a zobeta ni kofi mon frère. Zobeta mon yiboko n'a bé. Peta ba li kofi na boko ya mobali. Resort Candole. Papa Kale Candole. Mama Eugenie Kassai. Félix Pongol. Didi Kinoa ni Monsomi Monene ya Mabanga. Michel Ladilouya.
Dès son plus jeune âge, hein, Golad était passionné par la musique, allant aux répétitions des musiciens après l'école. Il a toujours voulu devenir artiste musicien, Roger.
Oui, Bagassi. Et c'est en 1995 que le début de son rêve commence à se réaliser. Il est repéré, recruté par Werrason lors d'une kermesse organisée à Bandalungwa, une commune de Kinshasa.
Ferré Gola dans Béquille. Merci, Roger.
De rien, Bagassi. Merci à tous nos fidèles auditeurs de Mouené Ditou au Kasaï Oriental.
Roger Muntu, que vous suivez chaque jour dans RM Show. À partir de 20h, temps universel.
Maréchal Tito, Magali Sissi, Arsène Kamango, Yves Kambala.
Nanya Pesanga Babeki, la Pesa Chéri n'a pas tabou, sa bolivo, et sa tabou la tembou. Kanta ma melisinga, osse, et un poto poto, na foya monelite. Meso Kando.
Tresonga na pina kayo sa bolingo na ngayaye. Tresonga na pina kayo sa libombo na ngayi. Tresonga na itigi sa kayo na tangwa sisete.
Voilà, C'est la fin de cette tranche horaire. Hein, et merci de votre fidélité. Anne Alberson et Bagassi Koura vous ont accompagné ce matin. Excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.